Bon. Monsieur McSween, t'es allé tester le système?
Oui, pas pour être taquin. C'est parce que je l'ai vraiment testé parce que j'avais une journée hier occupée. Puis je me suis retrouvé dans trois établissements de restauration différents. Et je me suis dit, tiens, ça me rappelle les cours de gestion des opérations de la production à HEC Montréal parce que le passeport vaccinal ajoute des problèmes. Je te donne un exemple. Premier test, je vais chez McDo, toi. Alors, je vais chez McDo me chercher un café.
Okay.
Et là, il y a l'affiche. Nous devons demander le passeport vaccinal.
Uh-huh.
Mais t'as bien beau l'afficher, faut que tu mettes le contrôle en place. Et donc, quand tout le monde entre dans le restaurant puis que les caisses sont au fond, puis que même si tu manges sur place, la caissière ou le caissier te demande « Avez-vous votre passeport vaccinal? » Toi, tu peux bien prendre ton sandwich et aller le manger dans la salle à manger, personne ne te dérange. Et donc, le premier point, c'est de dire « Le type de restauration rend le processus compliqué. » Un autre exemple, t'es dans un café. T'as un employé qui sert le café, qui fait le latte. La file est devant lui ou devant elle. Puis, il y a 5-6 clients. Ben, veux pas, le temps que tu te rends à la caisse, que tu dises ou pas que t'as ton passeport vaccinal, t'as quand même été dans l'air de jeu, là. Et tu peux t'asseoir et là, il oublie peut-être de te scanner. Donc, un café qui a peu d'employés a plus de difficultés. Là où ça a très bien été, c'est dans un restaurant avec service. Donc, tu vas dîner dans un restaurant avec service, qui m'est arrivé hier. Je suis rentré, la propriétaire me dit « Avez-vous votre passeport vaccinal? » Je lui montre ma pièce d'identité et j'ai vu que le contrôle était très bien fait. D'ailleurs, il y a des gens qui se sont fait virer de bord parce qu'ils ne l'avaient pas. Et il y a un processus qui est plus long, c'est les gens qui disent « Ah, je me suis fait vacciner. Ah non, je ne l'ai pas. Télécharge l'application, mets la preuve vaccinale, montre la pièce d'identité. » Tout ça, c'est du temps. Puis le temps, c'est de l'argent. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive au niveau du passeport vaccinal, c'est-à-dire on a un problème opérationnel. Maintenant, si les gens, leur téléphone est mort parce qu'il n'y a plus de batterie, c'est un autre enjeu. Et on voit aller ce qui s'en vient.
C'est du gossage.
Ah, il y a beaucoup de gossage. Mais bon, ce qui s'en viendrait, ce que je verrais, là, c'est...
Non, mais tu sais, il y a des gens qui, me racontent-on, là, tu sais, qui arrivent puis qui font les surprises.
Oui, c'est ça. Ah, c'est aujourd'hui! Ah, ben.
Mais de quoi me parlez-vous? Un passeport, quoi?
Hey. Dans le fond, j'ai vu le processus comme aller au Centre Bell puis te faire carter. Tu sais, quand t'es jeune, t'as pas 18 ans, tu te fais carter dans le bar. Premier processus. Puis quand tu vas au Centre Bell, on scanne ton billet. Ben, c'est exactement ça, mais deux fois. Et le problème aussi, c'est peut-être au niveau du... qu'est-ce que je te dirais? C'est au niveau de l'approbation en amont. Peut-être qu'un jour, si ça continue à long terme, cette affaire-là, on va entrer dans un commerce et il va y avoir quelque chose pour numériser notre preuve avec un signe vert ou rouge, un peu automatisé. D'ailleurs, quand on réserve présentement, beaucoup de restaurants comme le Pastaga décident de ne plus prendre de réservation.
Non.
Ben, on pourrait simplement dire, en amont, puis là, c'est une question de sécurité, mais envoyer notre preuve ou l'affaire par un processus automatisé sécurisé, réserver, voici ma preuve vaccinale, voici ma carte d'identité, avec une protection, il y a un service qui est possible là. Le problème, c'est qu'on ne le développera pas parce qu'on se dit combien de temps ça va durer cette mesure.
Le moins longtemps possible, c'est ce qu'on souhaite.
Oui.
Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas... T'sais, je regarde les premiers pays, je pense que c'est le Danemark qui l'a implanté, là, le passeport, mm-hmm. puis qui le retire. En France, je regardais au début, c'était un peu comme ici pour les restos. Ben c'est les employés n'étaient pas touchés. Là maintenant, depuis quelques jours, les employés doivent avoir une preuve vaccinale. Fait que, tu sais, on veut juste s'assurer que ça soit évidemment appliqué, mais pas trop longtemps, là, dans le sens qu'on retourne à des activités un peu plus régulières. Parce que tu sais, il y a personne qui aime ça arriver puis dire voici ma preuve, puis voici ma carte d'identité, puis bon.
Tu parles de la clientèle?
Ouais.
Tu parles du temps parce que
c'est les employés, puis les employeurs, ouais. Puis tu sais, il y en a qui font exprès pour aller foutre le bordel aussi.
Exact. C'est pas le fun pour les restaurateurs non, de non, dire hey, est-ce que tu as ton passeport? C'est sûr que c'est pas plaisant. Et il y a une perte aussi. Et j'ai demandé c'est quoi le client type que vous revirez de bord? Puis la dame, elle me dit bon, ça m'est arrivé 5-6 fois aujourd'hui. Elle dit c'est du monde qui sont demi-vaccinés. Du monde qui n'ont pas pris le temps d'y aller, mais ce n'est pas des gens qui sont contre la vaccination. C'est souvent plus du laxisme. Des gens qui sont allés une première dose puis qui ont fait « bah ». Et c'est là, c'est cette clientèle-là qu'on essaie de convaincre d'aller se faire vacciner pour qu'ils puissent rentrer chez
eux. OK. Parle-moi donc de ce défi pour couche-tard, c'est-à-dire les bornes de recharge pour les voitures électriques.
C'est intéressant parce que plusieurs gens font l'association entre couche-tard puis l'électricité en disant on va remplacer l'essence par l'électricité, ça va se régler. Bon, couche-tard a un enjeu premier, c'est que les gens vont recharger leur voiture à la maison pour commencer. Donc, tout le positionnement géographique de couche-tard, qui est basé sur du commerce de proximité, près des gens, près de leur réflexe d'aller remplir leur voiture d'essence, ben, est perdu. Parce que dans le fond, quand est-ce que tu as besoin de recharger ta voiture? C'est quand tu n'as plus d'électricité, quand tu fais des longues distances, quand tu es sur l'autoroute, quand tu vas au centre commercial pour plusieurs heures, là, tu auras le temps de recharger. Donc, les bornes électriques où ils seront vraiment intéressantes, c'est les lieux des hôtels, par exemple, près des lieux de travail, près des lieux de centres commerciaux, sur les autoroutes où il y aura, disons que tu es dans le milieu, au Madrid, entre Québec, puis Montréal ou Drummondville. Donc, il y a ça qui est intéressant. Mais au niveau du modèle d'affaires actuel de Couche-Tard, on dit on va faire une vingtaine de bornes test, mais on sait très bien que la marchandise que tu vends dans ton dépanneur est souvent liée au fait, dans les endroits où il y a des postes d'essence, du fait qu'on remplisse notre voiture. Et là, je suis allé voir les résultats financiers et c'est pas compliqué. On a beau se dire que Couche-Tard est une compagnie québécoise en gestion, ça demeure une compagnie principalement américaine et étrangère en revenus. Juste te donner une idée, 68,5% des revenus en dollars, en vente de dollars US, se font aux États-Unis. Et donc, tu as plus que deux tiers de ton chiffre d'affaires qui est américain. Et là-dessus, tu fais 12,5% sur l'essence aux États-Unis, mais 34% de marge sur la marchandise. Donc, si l'essence disparaît, c'est sûr que tu en vends 2 quelques fois plus que la marchandise, mais si elle disparaît de ton modèle d'affaires, tous tes dépanneurs qui ont une raison d'être parce que les gens vont remplir leur voiture d'essence perdent peut-être de la valeur et devraient peut-être être positionnés ailleurs. Donc, Couche-Tard va peut-être avoir, avec l'électrification des transports, à changer ses stations de place. Ça, c'est le premier enjeu.
Ouais.
Le deuxième enjeu, c'est de dire les marges sont élevées, on veut faire des programmes de fidélité. Donc, on veut amener le client à penser à Couche-Tard. Et c'est pour ça qu'on prend les jeunes. T'sais, depuis que je suis tout jeune et que ça existe, ben, c'est que c'était pas, là, dans mon temps, ça s'appelait autrement. Là. Mais ils ont commencé à mettre des choses en place pendant que j'étais à l'université. Exemple, la slush pour attirer les jeunes. Quand ça a pu fonctionner tant que ça, ils ont dit parfait, on va leur vendre des hot dogs, de la liqueur pas chère, on va leur vendre des boissons énergétiques. Donc, on essaie de trouver des produits.
La pire cochonnerie que Couche-Tard a faite à mon point de vue, c'est quand ils ont fait une campagne de pub associant le prix de l'essence puis le prix de la bière.
Le prix de l'essence et le prix de la bière, je me souviens pas de ça.
T'avais un rabais, je me souviens pas par cœur, mais t'avais un rabais sur la bière ou sur l'essence. Je pense, t'achetais une caisse de bière, t'avais un rabais sur l'essence.
T'sais, consommez, puis vous allez, on va vous faire un rabais sur l'essence.
Ben oui.
T'sais, achète ta caisse de Molson.
Ça, sérieusement, en termes d'image puis d'éthique pour une entreprise, là, c'est à peu près la plus belle cochonnerie que j'ai rarement vue.
Mais tu sais que...
T'essaies de combattre l'alcool au volant, particulièrement chez les jeunes, puis toi, tu fais une promo où tu associes prix de l'essence, prix de la bière.
J'avoue qu'ils n'ont pas pensé. Écoute, moi, il y a une affaire que j'aime chez Couche-Tard, puis je pense que c'est dans le modèle d'affaires. En fait, ça l'est. Tout est fait semblable. Tu rentres dans n'importe quel Couche-Tard, tu te reconnais. Et ça, là, ça sert à gérer l'attachement puis l'anxiété. Les gens qui rentrent chez Couche-Tard sont heureux parce que le sac de Chip Lays est à cette place-là. Ça les rassure. Donc, ça les rend attachés au commerce. Tu ris, mais il y a de la psychologie derrière ça.
J'en suis convaincu.
Salut.
Bonne journée. À demain. Il est 7h22. Toujours la 40, là.